Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 42. Verset 42. Première Corinthiens 15, verset 42. Ainsi aussi est la résurrection des morts. Il est semé en corruption. Il ressuscite en incorruptibilité. Il est semé en déshonneur. Il ressuscite en gloire. Il est semé en faiblesse. Il ressuscite en puissance. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y en a aussi un spirituel. C'est ainsi aussi qu'il est écrit, le premier homme devint une âme vivante, le dernier Adam, un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ensuite, ce qui est spirituel. Le premier homme est tiré de la terre, poussière. Le second homme est venu du ciel. Tel qu'est celui qui est poussière, tels aussi sont ceux qui sont poussière. Et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. Or je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, et que la corruption non plus n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts seront ressuscités incorruptibles, et nous, et nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie en victoire. Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô mort, ta victoire? Or l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur.
De la raison humaine intervenant dans un domaine où elle n'a rien à faire, sinon se soumettre à la révélation de Dieu, l'apôtre a établi, et simplement par des exemples, des figures empruntées à la nature, à ce que chacun peut voir et comprendre dans le domaine physique. Il a établi que, en résurrection, le corps est toujours le corps, mais, passant par la mort, revêtu, animé d'une vie nouvelle, c'est quelque chose de différent. et que, en résurrection, la diversité même des corps ressuscités n'empêche pas leur unité de vie à la gloire de Dieu. La résurrection a été ainsi présentée sous divers aspects depuis le début du chapitre. Mais pour arriver à ceci, qui est la conclusion que nous avons trouvée au début du chapitre, du verset 42, ainsi aussi est la résurrection des morts. Ce qui a été semé en corruption ressuscite en incorruptibilité. Ce qui a été semé, cela est présenté de façon impersonnelle, tout le passage là est très, très abstrait, très, très général. Il y a quelque chose qui est semé en corruption et qui ressuscite en incorruptibilité, qui est semé en déshonneur, qui ressuscite en gloire, qui est semé en faiblesse, qui ressuscite en puissance, qui est semé corps animal, qui ressuscite corps spirituel. Il s'agit donc du corps humain, mais pour aboutir à ceci, qui jusqu'ici n'avait pas été présenté, s'il y a un corps animal, il y en a aussi un spirituel. Le corps, toujours, mais un corps spirituel. Et c'est cette grande vérité qui va être développée dans la suite du paragraphe et même toute la fin du chapitre, introduisant quelque chose de nouveau. Non seulement résurrection des corps, ce qui est entré dans la mort et qui reprend vie, mais, et c'est une réponse glorieuse au pourquoi ou au comment plutôt, comment ressuscite-t-il, avec corps, quel corps vient-il ? Il va être parlé de ce corps spirituel et de ses relations avec l'homme ressuscité, glorifié, Christ lui-même, qui est non seulement le second homme, mais qui est le dernier Adam. Et c'est une fois de plus la personne du Seigneur Jésus dans son pouvoir vivifiant qui va être présenté devant nous jusqu'à l'exercice de cette puissance par laquelle non seulement des morts seront ressuscités. Cela, ce n'était pas quelque chose de nouveau, les saints de l'Ancien Testament le connaissaient, mais que nous serons tous changés. Et cette notion, cette vérité de la transmutation des vivants, de corps qui passeront à l'état de conformité avec le corps de gloire de Christ sans passer par la mort, c'est là une chose nouvelle. C'est ce que nous n'avons pas rencontré encore dans ce chapitre, ni on peut dire dans toute la parole. De là, la portée, l'importance priée, tout particulier de ce qui est placé devant nous aujourd'hui.
Reportons-nous à la scène de victoire de la résurrection du Christ. C'était bien le même Christ qui reprenait place au milieu des siens.
Mais il revêtait dès lors un corps dont on a pu dire qu'il était, en attendant d'être un corps glorifié, il était un corps spirituel qui s'assujettissait la matière. Il n'a pas eu besoin que la pierre qu'on avait roulée devant le sépulcre n'y fût plus. Il est ressuscité, c'est la base de notre rédemption. Il n'est plus dans la mort. Il dira aux siens, touchez-moi, voyez, j'ai les os de la chair, et un esprit n'en a point. Mais pourtant, il y avait entre un Christ dans les jours de sa chair et celui qui allait donner pendant 40 jours aux siens et de bien des manières les preuves assurées de sa résurrection. Maintenant soigneusement ce qui est fondamental, ce qui découle des expressions mêmes de l'Écriture. Cet homme, Christ Jésus, qui venait d'être démontré Fils de Dieu en puissance par sa propre résurrection, c'est celui qui a repris place en gloire, mais après avoir été glorifié, c'est la même personne dans les étapes successives de sa manifestation. Corps spirituel, il était là pendant 40 jours, apparaissant aux uns, apparaissant aux autres, refusant l'hommage de Marie et de Marthe, dans l'élan de son cœur, se précipitait pour le saisir. Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Les relations qu'il avait entretenues durant les jours de sa chair, quand il révélait le Père, quand il parlait de son Dieu, ces relations ne pouvaient pas se reprendre comme elles l'avaient été auparavant. Et l'apôtre Paul dit, si même nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Période transitoire qui, dans une certaine mesure, nous définit ce qu'est notre position présente, marchant sur la terre, les cœurs en haut, déjà glorifié selon l'affirmation même du Seigneur, la gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée, mais n'occupant pas encore ce qui était l'aspiration de son âme, son saint et ardent désir, la requête qu'il adresse à Dieu son Père, au Père, dans le chapitre 17. Et maintenant, on aime à y revenir. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Comme on l'a dit, répété, comme nous l'avons lu, avec reconnaissance, parce que nos frères, conduits par l'Esprit de Dieu, nous ont tracé dans des lignes précises et prudentes ce que nous pouvons comprendre de ce qui en est présentement notre Sauveur glorieux. Il rentrait comme homme dans cette gloire d'éternité, la gloire du Fils unique qui est dans le sein du Père, une gloire qui n'avait pas cessé d'être sienne, même quand il en avait voilé l'éclat sous les traits d'une humanité conforme à la nôtre en toutes choses. Si c'est maintenant la position chrétienne, vivant sur la terre, mais les cœurs en roue, vivant la vie du Christ, celle qui nous a communiqué par sa mort et sa résurrection, par le Saint-Esprit qu'il accorde à ceux qu'il scelle pour le jour de la rédemption, mais jouissant déjà de cette chose précieuse, de ce fait précieux, le contempler là où il est, en attendant que nous le voyons tel qu'il est. Je crois qu'on a besoin, il semble que nous avons besoin de retenir ces choses. Elles sont très confuses dans l'esprit de ceux dont nous savons pourtant que, encore peut-être mal enseignés, ils ne font pas la différence. Entre un Christ qui souffrit et qui mourut, crucifié en infirmité, mais nous pensons à lui quand le tombeau fut trouvé vide. La différence entre ce qu'il put montrer de lui aux siens pendant ces 40 jours et ce qu'il est maintenant. La gloire qui est sienne, dans laquelle il paraît assis sur le trône du Père et aussi, suivant l'expression d'Hébreu, paraissant pour nous devant la face de Dieu. Or, si nous ne partagerons jamais sa gloire d'éternité parce qu'elle est sienne, elle lui est personnelle, la gloire du Fils unique qui est dans le sein du Père, pourtant, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et l'Esprit qu'il nous a donné nous permet, en quelque mesure, autant que la chose est possible à des êtres encore infirmes, nous permet en quelque mesure de penser à lui et de l'adorer, en attendant que nous le voyons, lui ayant été fait semblable à lui, l'homme Christ Jésus, ressuscité et glorifié.
Dieu ne pouvait pas faire son travail à moitié. Comme il ne fait rien à moitié. Nous sommes abondamment instruits quant au sort de l'âme d'un croyant. Mais l'homme n'était pas que âme. Il était âme et corps. Et le corps avait été formé par Dieu. L'homme a déshonoré Dieu et s'est déshonoré lui-même. Et il continue à le faire. Donc, dans ce corps qui est là, qui est à la fois marqué par l'empreinte d'une main divine, main créatrice divine, un corps qui exprime plus que le reste de la création encore, la sagesse et la puissance de Dieu. Et en même temps, depuis la chute, l'homme a honte de son corps. Il est dans une condition honteuse. Et ce sentiment est encore bien plus profond quand il s'agit des chrétiens. Les hommes inconvertis sont eux-mêmes dans une position très anormale, dans cet état de chute. n'entrons pas dans les détails, mais c'est la réalité. Partout, c'est ainsi, partout. Ce n'est pas normal que l'homme ait à se comporter comme il le fait, avec tant de... au milieu de... alors que se pose pour lui tant de questions, pour toute sa vie. Les relations entre les hommes ne sont pas rendues faciles par le fait que le corps des hommes, le corps de l'homme est devenu ce qu'il est, et que le vieil homme est là pour s'en servir pour le mal. Mais passons. Dieu ne pouvait pas faire son travail à moitié, et il a sauvé l'homme entièrement. Grâce à la rédemption, à l'expiation, Dieu non seulement dit qu'une âme est lavée, il ne s'agit pas du corps, l'âme est lavée par la foi ou en Christ, par la foi en son sang. C'est terminé, c'est réglé, pour toujours. Mais l'homme est un être formé d'âme et de corps, et Dieu n'eût pas été à la hauteur de sa tâche et de sa gloire s'il ne s'était pas occupé du corps. Il l'a fait. Et nous voyons ici la destinée qu'il lui prépare. C'est ce qui nous est dit ici. Quant aux détails et à l'exactitude des caractères de cet homme qui sera ressuscité, nous ne les connaîtrons que quand nous serons ressuscités. Mais nous avons des affirmations qui nous remplissent et d'assurance et d'adoration quand nous voyons de quelle manière Dieu a pensé à nous dans tout ce que nous sommes. Nos corps sont faibles, ils sont misérables, ils sont corruptibles, ils sont remplis de corruption, n'est-ce pas? Ils sont en eux-mêmes, ils ne sont pas cela, mais ils sont des vases. Les vases dont le Satan, dont nous, le vieil homme se sert, et Satan s'en sert, et eux-mêmes d'ailleurs les corps sont corruptibles, ils sont mortels, c'est une anomalie. Dieu n'a pas créé l'homme, il ne l'avait pas créé pour être mortel. La mort est entrée à la suite d'un événement étranger à Dieu et opposé à lui. Nous avons l'assurance, nous savons maintenant, ici-bas, la destinée de nos corps, nos âmes, nous savons, et nous savons ce que sera le racheter dans la plénitude de son être. Il a une nouvelle vie et il aura un corps spirituel. C'est pour les chrétiens une source de joie que de penser à ça. Parce que les chrétiens, si nous sommes plus ou moins exercés, ce n'est pas une mince tâche que de traverser ce monde avec le corps que nous avons et le vieil homme qui ne demande qu'à le mener. Et étant donné les infidélités qui marquent notre cheminement, nous pourrions nous poser des questions quant à l'issue finale. La réponse de Dieu est donnée, et pour l'âme, et pour le corps. Et tout est grâce. Mais tout repose sur l'œuvre de l'expiation. Et quand nous pensons à notre corps qui va être changé en un corps glorieux, ne perdons pas de vue la scène sanglante de la croix où Christ a accompli l'œuvre qui est le centre de tout ce que Dieu a fait.
Sur la croix, dans l'œuvre de la croix, et que s'est produit la rencontre, on peut parler ainsi, de ce qui était céleste, le second homme venu du ciel, ce qui était et le dernier Adam, et ce qui est terrestre, le premier homme, la descendance d'Adam. Le corps dans lequel Christ est ressuscité et qui a en effet ce caractère nouveau qui a été évoqué, le corps dans lequel il a été glorifié, mais qui se trouvait sur la terre dans des conditions déjà nouvelles, ce corps ressuscité et qui donc était passé par la mort, avait connu la mort, n'avait pas connu la corruption. La mort n'avait pas eu de prise sur lui. Parce que le péché n'avait jamais eu de prise sur lui. Il était entièrement différent du premier homme, sauf que il avait part au sang et à la chair, mais il était venu du ciel. Le second homme est venu du ciel. Il n'avait jamais connu le péché. Il avait glorifié Dieu sur une terre souillée par le péché, au milieu d'une humanité pécheresse. Et c'est ce qui lui donnait la qualité, on peut dire, voulue pour porter les péchés des autres, pour expier le péché, être fait péché, alors dans le sens de la victime expiatoire. La descendance du premier homme, nous tous, c'est ce qui est défini comme possédant un corps animal, et seulement un corps animal, c'est-à-dire le corps, la note le dit très bien, n'est-ce pas, un corps qui, par l'âme vivante, a une vie animale, mais seulement pour la terre. Non pas que cette vie cesse avec la vie physique, l'existence est éternelle, mais elle a été, cette créature a été créée pour la terre. Et alors, le péché ayant été communiqué par Adam à toute sa race, le péché entré dans ce monde et par le péché la mort, est-ce qu'il prépare la mort? De sorte que les corps sont des corps mortels et corruptibles. Notre corps est mortel et corruptible, tout cela à cause du péché. Se trouve, s'est trouvé toujours en contraste avec le corps de Christ. Dans sa pureté, dans sa sainteté, et dans ce qu'il avait d'unique, lui qui est venu du ciel. Et voici que maintenant, ce qui est placé devant le croyant, l'espérance du croyant, et la certitude donnée par l'Écriture, la révélation que nous avons ici, c'est que ces corps, ces corps mêmes, ces corps des descendants d'Adam, ces corps mortels et corruptibles seront changés, et des croyants, seront changés en la conformité du corps de gloire de celui qui est le second homme, venu du ciel, céleste, ayant toujours eu ce caractère céleste, mais reprenons place dans la gloire, ayant passé par la mort. Et voilà le point central, fondamental, intérieur, intime de tout. tous les passages, le passage que nous avons dit ici, n'est-ce pas? C'est que ce qui est corruptible et mortel sera changé en la conformité de celui qui est le second homme glorifié. Alors comment cela est-il possible? Oh, c'est un mystère en soi-même. Pénétrerions les secrets profonds de Dieu et nous irions au-delà de ce qui nous est permis de comprendre. Mais ce que nous voyons, c'est que la rencontre s'est faite et le motif, la possibilité de ce changement merveilleux, tout cela a son point de départ, a eu son action nouvelle, n'est-ce pas, génératrice de cette grande transformation à la croix. Lorsque la question du péché a été réglée. Désormais, est-ce que cela ne nous saisit pas cette grandeur des changements qui va être opéré? Désormais, ce qui est mortel et corruptible, mieux que cela, qui aura connu la corruption jusqu'à disparaître quant à la forme extérieure, dissous, à ne plus reconnaître ce qui a été un corps, et tout cela si misérable, et si méprisable, on peut dire, cela qui paraît si insignifiant, tout cela sera changé et sera conforme au corps glorieux et de notre Sauveur. Voilà la puissance de ce Sauveur. Voilà comment il a le pouvoir même de s'assujettir toute chose, même la mort. Voilà le point fondamental sur lequel, on l'a dit et nous y revenons, il est nécessaire de toujours nous retrouver. Le règlement de la question du péché et de notre état en Adam. Et il est si entièrement laissé de côté, mis de côté par Dieu, qu'il est placé dans la mort. Désormais, on n'en parle plus. Il n'y a plus que la vie. Le second homme est non seulement une âme vivante, comme Adam avait été faite, mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. On peut dire qu'il avait la vie en lui-même, il a été déterminé fils de Dieu en puissance par la résurrection des morts, même par les résurrections qu'il a opérées avant sa propre résurrection, mais il n'a véritablement exercé ce pouvoir vivificateur, cet esprit vivifiant, le communiquant à d'autres et le communiquant à des hommes encore sur la terre, que après sa résurrection, que comme l'homme ressuscité, il fait valoir cet esprit vivifiant lorsque le soir du premier jour de la semaine, étant au milieu de ses disciples, paix vous soit, la scène bénie que nous connaissons bien, il souffle en eux, recevez l'Esprit Saint. L'Esprit est vivifiant. Quelle grandeur est donc ce changement. Voilà le mystère. Voilà ce mystère qui n'était pas révélé dans l'Ancien Testament. Absolument pas. La résurrection, oui. Il a été fait allusion à Job dans les journées précédentes, et il y aurait d'autres témoignages, mais bien qu'ils ne soient pas très nombreux dans l'Ancien Testament. Mais enfin, on voit que les saints de l'Ancien Testament pouvaient avoir l'idée et avaient l'idée de la résurrection. Et les Juifs l'avaient. Les paroles du Seigneur, les entretiens, les discussions du Seigneur avec ses opposants, soit pharisiens, soit sadducéens, le montrent. Mais le changement que nous avons ici, et ce changement qui peut être opéré et qui sera opéré non seulement vis-à-vis des morts, c'est la résurrection, mais vis-à-vis de vivants, voilà ce qui n'avait jamais été révélé. Voilà le mystère que maintenant Dieu nous révèle par le moyen de l'apôtre Paul. Voici, je vous dis un mystère. Cela reste incompréhensible quant à la façon dont la chose sera faite. Après, cela nous dépasse, mais cela nous est présenté comme un fait. Et nous pouvons en apprécier la grandeur que par rapport à cet état d'éloignement, d'inimitié, de déshonneur, de corruption, de mort et de mort éternelle qui était la nôtre.
On comprend que le fait d'être chrétien n'interdit pas que les saints connaissent ce que les inconvertis connaissent. Et à bien des égards, ils le chantent beaucoup mieux. L'effet du péché, la condition même de nos corps physiques, nos corps mortels, tout cela est pour le chrétien exercé un sujet de réflexion qui le conduit à rendre grâce avec beaucoup plus de ferveur à celui qui nous a tiré, non seulement qui nous a tiré de notre situation sans issue. La foi en Christ ferme pour nous la porte de la seconde mort. Bien que le Seigneur n'ait pas supporté les souffrances de la seconde mort, comme on le dit quelquefois, ce qui n'est pas exact du tout. Parce que la seconde mort, c'est, si on peut dire, le jugement pur, absolu, un jugement éternel. La colère de Dieu s'exerçant éternellement sur ceux qui seront dans cette condition affreuse. Et personne n'osera dire que le Seigneur a été cela sur la croix. Pendant les 3 heures, il a été traité, nous savons, comme le péché, mais nous savons aussi que jamais, comme pendant ces 3 heures, il n'a été aussi agréable à son Père. Et aussi, il n'a donné à son Père de goûter les délices que le Père a trouvé dans son Fils, dans ses heures solennelles. Ce n'est pas le Père qui a abandonné le Fils, c'est Dieu qui a abandonné le Fils. Serrons de près l'Écriture, enfin, en tout cas, pour certaines questions fondamentales. Donc, pour nous, la question de nos corps est réglée. Cela ne veut pas dire que nous n'ayons pas à veiller sur eux, au contraire, au point de vue de la moralité en tout cas, que nous ne puissions pas faire appel à ceux qui peuvent nous aider à éviter de la souffrance, mais pas un chrétien, ni même ne pense là devant lui, la pensée de faire appel à qui que ce soit quant à la mort. Et il peut dire au contraire, quant à la mort, mon affaire est faite, est réglée, mon cas est réglé. Et il est un témoin de cela. Nous devrions être des témoins de cela. La mort devrait être pour nous, la pensée de la mort, conversation sur la mort, l'occasion de dire ce que Dieu a fait. Et ce qu'il a fait en faveur de tous les hommes, pour tous ceux qui veulent, écouter ce qu'il dit, croire ce qu'il dit, ce qui ne se réalise pas sans une opération divine dans l'individu. Quelle merveille que cela! Tous les grands problèmes sont réglés. Le reste, ce sont des conséquences. L'Écriture est faite pour cela, pour traiter les questions dont l'homme n'ose pas s'approcher, soit parce qu'il sent son incompétence, soit parce qu'il a peur. Mais l'Écriture est essentiellement donnée pour cela. Elle parle de la question du bien, du mal, de la mort, de l'éternité, Vous trouvez des gens, vous trouvez beaucoup de personnes qui aiment à parler de cela, non? On s'efforce d'oublier, mais cela ne résout rien, bien au contraire. Et nous devrions être les témoins vivants, brillants, que nous avons la réponse à toutes ces questions-là, et nous pouvons la présenter aux autres. À la gloire de Dieu et du Christ.
Nous pourrions chanter un cantique, le cantique 39e. Nous te contemplons dans la gloire, ô cher Sauveur, goûtant les fruits de ta victoire, puissant Sauveur, pour toujours dans le sanctuaire, à la droite de Dieu ton Père, toi qui descendis sur la terre, humble Sauveur, les strophes 2 et 3 du cantique 39. Dont la résurrection, cette connaissance qu'ils avaient, connaissance vague et lointaine, il est vrai, connaissance réelle cependant de la résurrection, est-ce que Joseph, pour ne citer qu'un exemple, est-ce que Joseph n'est pas un exemple frappant à cet égard? Pourquoi donc est-ce que Joseph parle ainsi de ses os avant de mourir? Est-ce qu'il n'y avait pas cette pensée de la résurrection qui lui tenait très à cœur pour qu'il parle ainsi de ses os? Et à trois reprises, l'Esprit de Dieu a jugé bon de nous conserver la mention de cette vigilance de Joseph à l'égard de ses os et des soins qui par la suite ont été prodigués à l'endroit de ses os. Nous avons le premier passage à la fin du chapitre 50 de la Genèse. Joseph est sur le point de mourir, mais avant de mourir, il donne une certitude à ses frères. Dieu vous visitera certainement. Et il enchaîne de suite et vous ferez monter d'ici mes os. C'est comme si Joseph disait, Dieu prendra soin de vous et de la même manière, il prendra soin de mon corps mortel. Vous ferez monter mes os d'ici. Les années ont passé depuis la mort de Joseph et de grands événements sont produits. Il semble que, les années ayant passé, chacun a oublié la question des os de Joseph. Eh bien non, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, deuxième mention des os de Joseph, en Exode 14, il est expressément dit, « Et Moïse fit sortir les os de Joseph, selon la parole qu'il avait expressément dite, l'Éternel vous visitera certainement et vous ferez monter mes os d'ici. » C'est Moïse, personnellement, qui a pris soin des os de Joseph. Il les fit sortir du pays d'Égypte. Et enfin, troisième mention, nous arrivons, de nouveau, de nombreuses années ont passé, nous arrivons au temps de la mort de Josué. Tout à la fin du livre de Josué, Josué est mort, et voici que il nous est parlé des os de Joseph encore. Dans ce passage, on enterra à Sichem les os de Joseph que les fils d'Israël avaient transportés d'Égypte dans une portion qui est devenue par la suite l'héritage des fils de Joseph. Tout à la fin du chapitre 24 de Josué. Eh bien, si Dieu prend soin de nous parler à réitérer reprise des os de Joseph, est-ce qu'il n'y a pas
par-delà une telle scène, l'assurance que Joseph avait d'une résurrection. Voilà pourquoi il en a parlé de ses os, et voilà pourquoi Dieu a pris soin que des serviteurs tels que Moïse et Éléazar dans la suite prennent soin de ses os. S'il n'y avait pas cette pensée d'une foi en une résurrection certaine, il ne nous semble pas que l'Esprit de Dieu nous ait conservé ces différents passages et pris à cœur de mentionner à 3 reprises les os de Joseph, et cela pendant un laps de temps très long.
De même que l'attachement des patriarches à la caverne de Macpéla, qu'Abraham avait acquise, la seule portion du pays qui lui appartint en propre, c'était l'endroit des sépulcres, sépulcre de Sarah, puis le sien, puis celui d'Isaac, puis celui de Jacob, les autres Jacob transportés d'Égypte pour être placés dans cette caverne-là. Cela nous parle également de l'espérance que ces patriarches avaient dans une résurrection, espérance liée à la promesse que Dieu avait faite de donner ce pays à leur descendance et d'y bénir là la terre, les nations, le centre même de la bénédiction étant dans ce pays-là. Comme toujours, et comme nous le montre particulièrement au chapitre 11 des Hébreux, la foi honorant Dieu dans cette appropriation de la promesse qu'il avait faite est certainement enseignée à voir au-delà de simples choses terrestres. Nous aimons à le penser. Abraham regardait vers la cité qui a les fondements. Mais même en le restreignant à une résurrection pour la bénédiction terrestre, il y a bien là la certitude d'une résurrection. Ici, dans notre chapitre 15 de l'Exode, des Corinthiens, c'est évidemment de l'espérance chrétienne qu'il est question, des résultats d'une œuvre accomplie, l'œuvre de Christ, et le fondement de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Mais dès maintenant, il y a pour la foi des résultats si bénis qu'elle peut glorifier Dieu dans la jouissance de choses célestes, de bénédictions célestes, devançant par conséquent ce qui sera la réalité quand nous serons avec le Seigneur semblable à lui, et que nous jouirons pleinement comme lui-même de tout ce qu'on porte, la possession qu'il a acquise par son œuvre, par la croix, et qui est une possession non pas terrestre, comme cela a été promis au patriarche, mais une possession céleste et éternelle. Mais nous avons déjà les arts de cet héritage, un héritage céleste. Et alors, c'est en rapport avec cela que les choses nous sont ici présentées. Quand il nous est dit que la chair et le sang, verset 50, la chair et le sang, et c'est ce qui caractérise, c'est ce qui est propre au corps simplement animal,
au corps animal, par contraste avec le corps spirituel, bien, ce corps animal fait de chair et de sang, chair et sang, par conséquent, mortel et corruptible, ou corruptible et mortel, la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Il s'agit ici, évidemment, du royaume de Dieu considéré par-delà la mort. Non plus un héritage simplement terrestre, bien que les promesses de Dieu quant à la terre s'accompliront et la gloire de Dieu, mais pour nous, nous avons un héritage céleste. Et le Saint-Esprit, je le répète, nous est appelé les arts de l'héritage. Et la rédemption de la possession acquise se produira, la délivrance, n'est-ce pas, la mise en possession par conséquent des héritiers dans leur héritage, ou de l'héritage donné aux héritiers, cela aura lieu quand le Seigneur nous aura avec lui dans cette victoire manifeste, alors, qui non pas seulement virtuelle, qui sera montrée lors de sa venue, et que la mort pour nous sera véritablement engloutie en victoire. Combien tout cela est grand et merveilleux, chers amis. Mais alors, le grand fait, encore une fois, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Rien de notre nature pécheresse, rien de notre nature d'enfant d'Adam, souillé, corrompu, voué au jugement à cause du péché, ne subsistera. Tout cela a été enseveli dans la mort de Christ. Et bien, la vie qui est maintenant, qui nous est donnée par l'homme ressuscité, c'est cette vie de résurrection, cette vie nouvelle, et le corps dans lequel nous serons, sera un corps spirituel. Il est un esprit vivifiant. Quelle grandeur aussi dans cette expression. Il avait la vie en lui-même, il pouvait communiquer la vie. Assurément, il aurait eu le pouvoir de donner la vie éternelle à des créatures qui n'avaient pas péché. Et comme cela, de par son pouvoir. Mais s'il s'agit de nous, s'il s'agit de la descendance d'Adam, ce pouvoir ne pouvait s'exercer sans que le péché ait eu sa sanction, sans que le jugement de Dieu ne soit passé sur ce qui déshonorait Dieu, sur ce que la sainteté et la justice de Dieu ne pouvaient pas laisser subsister devant lui. Et par conséquent, pour qu'il exerçât son pouvoir vivifiant envers nous, envers des hommes, il fallait que lui passât par la mort. Que la victoire fût remportée sur la mort par sa mort même. Et la mort dans quelles conditions? Non pas par suite d'une désobéissance, comme c'est le cas pour Adam, pour nous tous, mais par obéissance à la volonté de Dieu et rencontrant le jugement de Dieu selon cette volonté éternelle de Dieu, selon ses conseils d'amour et de grâce. Voilà ce que nous présente ici, on peut dire d'une manière toute nouvelle, l'apôtre à propos de la résurrection des morts. Nous n'en sommes plus seulement au fait qu'il y aura une résurrection des morts. Mais quelle résurrection! Et quelle mort! Et quelle victoire sur la mort! Non seulement ceux dont Olaïn se sera emparé lui seront ravis, résurrection, mais il y en a qui sont soustraits, qui seront soustraits à son pouvoir. Ainsi sera-t-il démontré
qu'elle a bien été en réalité engloutie en victoire à la croix, et que la chose sera manifestée au jour où le Seigneur prendra les siens avec lui. Et c'est la scène de gloire et de puissance qui nous est présentée à partir du verset 51, le mystère qui est dévoilé, nous ne nous endormirons pas tous. Remarquez, il n'est pas même dit que les morts ressusciteront. Ce n'est pas ce qui est présenté en premier lieu. Dans, aux Thessaloniciens, cela s'en présentait en premier lieu. Mais ici, le fait qui est présenté ceci, c'est que nous, sans distinction de mort ou de vivant, sans distinction de croyant, ayant passé par la mort ou étant encore vivant, quand ils seront là, sans distinction, il est dit de nous, sommes tous sur le même plan, sur le même terrain, sur la même base, sur celle de la victoire emportée sur la mort. Nous serons changés. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Et alors, comment cela se produira? Voilà, comme les quelques versets qui suivent, qui nous le disent. Ce qui est important, ce qui doit se produire, c'est qu'il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité et que ce mortel revête l'immortalité. Mort ou vivant? Car ne disons pas que les vivants ne sont pas corruptibles. N'est-ce pas? On dit quelquefois que ce corruptible revêtant l'incorruptibilité, cela se rapporte aux croyants morts. C'est vrai, mais je ne pense pas qu'on puisse le dire exclusivement. C'est vrai de tous. C'est le corps qui est vu ici d'une manière générale. Mortel ou mourant ou mort, ou décomposé, dissous, irretrouvable pour les yeux de la chair, il sera changé. Et ce qui est mortel revêtira l'immortalité. Évidemment, ce qui est mort est connu. Cette séparation de l'âme et du corps, mais dans nos corps qui peuvent mourir, et qui sont mortels par conséquent, c'est cette même opération qui peut se produire d'un moment à l'autre. Mais peu importe. Et s'il s'agit de corruption, elle ne peut pas hériter du royaume de Dieu. S'il s'agit de la mort, évidemment, elle n'a rien à faire avec le royaume de Dieu. Il faut donc l'immortalité. Il n'est pas question de l'immortalité de l'âme, il n'est pas besoin de le dire. Il n'est pas question d'elle ici, c'est du corps que traite ces passages. Bientôt, ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ce mortel aura revêtu l'immortalité.
Rien ne pouvait empêcher le Saint-Esprit, depuis le commencement, d'éclairer les saints comme il l'entendait. Et la parole certainement ne révèle pas toutes les lumières que le Saint-Esprit a pu donner aux croyants de l'Ancien Testament quant à l'avenir. Pour ajouter à ce qui a déjà été dit, Abraham lui-même a reçu son fils Isaac de la résurrection. Comme, pour ainsi dire, de la résurrection. Mais ces saints de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit agissait en eux, mais n'a jamais habité en aucun d'eux. Tandis que dans le christianisme, depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, est descendu, a été envoyé par le Père, par le Fils, et il est venu. Et il n'a jamais quitté la terre. Il est là en permanence pour la formation de l'Église, d'une part, et d'autre part pour sa formation et son instruction. Et en particulier, on l'a dit tout à l'heure, il est bon d'insister là-dessus, chaque croyant a le Saint-Esprit, et nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Pas nos corps glorieux, encore, ils ne sont pas, nos corps tels qu'ils sont. C'est une merveille de grâce, là. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut nous faire réaliser une sorte d'anticipation de la résurrection. Nous pouvons très bien jouir des effets de la résurrection avant d'être ressuscités. Nous pouvons très bien jouir des effets de la gloire nous serons introduites avant d'y être. Et nous, c'est même un devoir pour un chrétien d'en jouir et de savoir ce que c'est que la gloire et de le savoir dans son âme. Et c'est dans les jours de faiblesse comme aujourd'hui qu'on perd le sentiment de cela et que on a une sorte de christianisme terre à terre où l'on se contente d'avoir un droit d'entrer dans le ciel plus tard. Eh bien, c'est ne pas aimer le Seigneur que de s'en tenir là. Cela prouve que le cœur est partagé tristement. Tandis que ces passages, comme tant d'autres, et tout le Nouveau Testament en particulier, montrent que les saints sont déjà glorifiés. Romains 8 nous le montre. C'est ainsi. Il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce n'est pas effectivement fait avec le corps, mais nous, dans nos âmes, nous pouvons réaliser cette gloire. Et Dieu, comme on l'a dit, il a son propre langage. Et nous avons à prendre soin à garder le langage de Dieu. Cela surprend un peu que Dieu dise que ceux qui l'ont justifiés, il les a aussi glorifiés. Mais Dieu n'est pas porté à corriger, à changer le mot glorifié, ils le sont déjà. Qu'est-ce qu'il reste à faire? À nous d'entrer dans l'intelligence du passage et d'entrer par conséquent, par plus de piété, dans la réalisation de ce que cela veut dire d'être déjà glorifié et d'être déjà ressuscité. Et d'Éphésiens, on lit cela presque tous les dimanches au culte, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Voilà, c'est très beau, c'est très beau. Mais qu'est-ce que cela apporte à l'âme s'il n'y a pas la piété correspondante? On a une phraséologie morte. Il n'y a que cela. De sorte que, en passant, nous attendons la résurrection, l'adoption, la résurrection des corps, mais notre privilège, et on peut dire notre devoir, non pas dans le sens légal du mot, il n'y a pas de légalisme dans la ferveur de l'esprit. Le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, il n'y a jamais de danger de légalisme, mais dans la puissance de l'esprit, agissant en chacun, occupant chacun des choses que l'Écriture nous fait connaître, alors nous pouvons réaliser, anticiper la résurrection. Et nous pouvons voir les choses qui ne se voient pas. Corinthiens nous dit cela aussi. Un langage qu'un profane ne peut pas comprendre, hélas, que même nous comprenons bien, d'une façon bien limitée. Et ce n'est pas à notre honneur. Nous pouvons anticiper cela. C'est surtout quant à nos corps que les choses, le changement sera produit à la résurrection. C'est surtout. Mais nous pouvons être sûrs que Paul était aussi bien au ciel qu'il sera quand il sera ressuscité. Son âme y était. Et peut-être beaucoup d'autres dont nous n'avons pas le nom. Mais cela nous est offert. Voilà les fondements du christianisme pratique. Non seulement s'appuyer sur les fondements de l'œuvre de Dieu extérieure à nous, mais en tirer les conséquences pour l'œuvre du Saint-Esprit dans les saints. Voilà ce que le Seigneur attend. N'est-il pas digne d'attendre cela?
C'est ce que l'apôtre m'a exprimé quand il parlait de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection. La puissance de sa résurrection dès maintenant, dans ce corps. Alors on comprend que cette puissance de la résurrection nous fasse envisager le changement glorieux qui s'effectuera lorsque le Seigneur prendra les siens à lui, indépendamment du passage par la mort ou non. C'est toujours la résurrection, même si nous ne passons pas par la mort.
C'est une triste chose si nous nous contentons d'être célestes simplement quand nos corps seront ressuscités.
Nous aimerions dire quelques mots, et nous avons conscience que nous revenons un peu en arrière, sur la personnalité d'Adam qui est expressément nommée dans ce chapitre. Nous avons sa création, l'histoire de sa création à l'image de Dieu, au chapitre premier du livre de la Genèse. Nous avons également l'histoire de sa suprématie sur les œuvres de Dieu. Et au chapitre troisième, alors, nous avons le péché entrant dans le monde par sa transgression. Il est remarquable de voir que dans les passages qui jalonnent les Saintes Écritures, les passages où il est parlé d'Adam, il est fait allusion non pas au temps de l'innocence, mais au temps de la transgression. Nous citons deux passages de l'Ancien Testament à ce propos. Dans le livre de Job, au chapitre 31, il nous est dit ceci, c'est Job qui parle, au verset 33 du chapitre 31, « Si j'ai couvert ma transgression comme Adam, en cachant mon iniquité dans mon sein, et dans un petit prophète, au livre d'Osée, au chapitre 6, il est parlé également d'Adam, et toujours en rapport avec la transgression qui par lui est entrée dans le monde. En Osée 6, nous avons ce passage, au verset 7, « Mais eux, comme Adam, ont transgressé l'alliance, là, ils ont agi perfidement envers moi. » Nous passons au Nouveau Testament, et à nouveau, s'il est parlé d'Adam, il est parlé du péché qui est entré dans le monde, ou des conséquences du péché entrant dans le monde. Nous ne citons qu'un passage, le passage du chapitre 5 de l'Épître aux Romains, où il nous est dit au verset 14, « Mais la mort régna depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui ne péchèrent pas selon la ressemblance de la transgression d'Adam. Mais voici qu'il est ajouté ceci, et combien précieux, qui est la figure de celui qui devait venir. » Et dans notre passage d'un Corinthiens 15, s'il est parlé d'une autre conséquence qui va bien entendu avec la première, la mort, Adam tiré de la poussière est poussière, et nous tous à sa suite. Mais alors, du moment qu'il est parlé du premier homme tiré de la poussière, il est parlé alors du second homme, il est parlé du Seigneur qui est venu du ciel. Dans le Nouveau Testament, il n'est pas seulement parlé du péché d'Adam ou des conséquences du péché entrant dans le monde, mais l'apôtre prend soin de nous dire qu'Adam était la figure de celui qui devait venir. Et dans notre passage, le contraste entre Adam, premier homme tiré de la poussière, et le Seigneur, le second Adam qui est venu du ciel. Ainsi donc, l'apôtre, pour revenir à notre sujet, plus précisément, au verset 51, peut dire « Je vous dis un mystère. Voici, je vous dis un mystère. » Il est intéressant de considérer les passages des épîtres de l'apôtre Paul où nous voyons qu'il y a eu des vérités révélées à lui-même et à personne d'autre, à aucun autre apôtre, des vérités qui ont été communiquées et confiées à lui seul. Prenons par exemple 1 Corinthiens 11. J'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné. L'apôtre Pierre ou l'apôtre Jean ne nous parle pas de la scène, l'apôtre Jacques encore moins, l'apôtre Jude non plus. Mais l'apôtre Paul avait reçu des enseignements précis directement du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné. Concernant donc la scène dominicale. Dans l'autre passage, je vous dis un mystère, et voici l'apôtre qui nous le communique. Il a été confié à l'apôtre Paul, pas à un autre. Et ceci est corroboré parce que nous avons, en 1 Thessaloniciens 4, nous vous disons par la parole du Seigneur. Ce qui veut dire que le Seigneur, un jour, a parlé à l'apôtre Paul. Il lui a parlé. Il lui a parlé de ce mystère. Il lui a parlé du retour du Seigneur, de la résurrection des saints endormis et de la transmutation de nous, les vivants qui demeurons sur la terre. Voilà la parole du Seigneur. Nous vous disons ceci. Nous ne l'avons pas appris par un autre apôtre. Les disciples avaient entendu parler du retour du Seigneur. Non. Nous avons entendu le Seigneur nous parler à nous-mêmes, dit l'apôtre Paul. Nous vous disons par la parole du Seigneur. Dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 3, nous avons une pensée semblable. Nous vous faisons connaître ce que nous avons reçu par révélation concernant le glorieux mystère du corps de Christ, tous les croyants, juifs et gentils, formant un seul et même corps, le corps de Christ. L'apôtre Paul, et non pas un autre, avait reçu cette révélation du corps de Christ, comme du retour du Seigneur et de ce qui s'opérait à son retour, ce qui est appelé dans notre passage un mystère.
Réalisons mal ce qui nous est présenté ici comme manifestation de la puissance rédemptrice de Christ. Nous attendons du ciel notre Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire. Son corps de gloire, selon l'opération de ce pouvoir qu'il a, de s'assujettir même toute chose. Alors, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, il a pu y avoir des avertissements préalables, mais là, la dernière trompette, c'est une allusion évidemment au commandement militaire, dans lequel les camps étaient levés à cette époque-là, comme d'ailleurs dans tous les temps. Il y a un dernier signal, la dernière trompette. Et alors, la trompette sonnera, et les morts sont ressuscités incorruptibles. En un instant, en un clin d'œil. Et si nous pensons que cela peut se produire d'un instant à l'autre,
tandis que nous sommes encore ici?
Certainement.
Est-ce que nous laissons une telle pensée, ou cherchons à ce qu'une telle pensée ait des effets sur notre entourage? Cela fait partie de la manifestation ou même de la prédication sans parole de l'Évangile complet.
N'est-il pas remarquable de constater que s'il s'agit du retour du Seigneur Jésus en faveur de l'Église, il est parlé de la trompette de Dieu ou de la dernière trompette. Et s'il s'agit de son retour en gloire, alors que tout œil le verra, pour établir son règne, il est mentionné également, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, une grande trompette. Nous lisons, nous citons, pour ceux que cela intéresse, le passage d'Ésaïe 27, où il nous est dit que le dernier verset d'Ésaïe 27, « Et il arrivera en ce jour-là qu'on sonnera de la grande trompette. On viendra, on se prosternera devant l'Éternel en la montagne sainte à Jérusalem. » Et dans l'Évangile selon Matthieu, c'est le Seigneur Jésus qui parle au chapitre 24 et qui dit ceci, « Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis l'un des bouts du ciel jusqu'à l'autre bout. » Il est intéressant de considérer cette concordance entre la trompette de Dieu, la dernière trompette qui se fera entendre, tout cela il est vrai en un clin d'œil, pour le rassemblement des saints constituant l'Église, le peuple céleste de Dieu. Et s'il s'agit de son peuple terrestre, à la fin des jours, en vue du règne de mille ans, il y a également mention d'une grande trompette, mention d'un grand son de trompette.
Nous connaissons par tout cela l'avenir du monde. Et sans nous désintéresser égoïstement de ce qui peut se déployer devant nous, pour penser aux pauvres créatures inconscientes de leur sort, nous ne nous laissons pas influencer par les théories, les prédictions et toutes les réflexions des hommes. Nous savons que tout cela est erreur. C'est triste. Il est terrible l'état du monde. Pour nous, c'est une brillante nouvelle que celle dont nous nous occupons. Mais pour le monde. Et ceux qui resteront seront formés de tous les inconvertis, qu'il s'agisse d'incrédules déclarés, de gens endurcis, de mauvaises vies, ou de personnes excellentes, ou de personnes qui auront passé leur vie au contact des choses chrétiennes sans les saisir, le sort de tous sera le même.
On aime à penser, à n'en pas douter, à l'air est de bénédiction et de bonheur que sera, que représentera le règne de Christ sur la terre. Les expressions prophétiques qui sont rappelées ici ont trait directement d'abord à cet accomplissement de la promesse divine de bénédiction de son peuple sur la terre et des nations bénies en ce peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, le peuple restauré, évidemment un peuple nouveau, un résidu qui aura traversé de grandes tribulations et qui aura été amené à porter ses regards sur son Messie qui autrefois a été par ce peuple lui-même rejeté et crucifié. C'est toute la prophétie concernant l'établissement du règne. Mais nous avons, comme cela vient de nous être rappelé, à ne pas nous enfermer égoïstement dans nos propres bénédictions et nos propres privilèges, et à penser avec bonheur que cela aussi aura lieu, et que le sang dans lequel nous avons été réconciliés, et le sang versé en rémission de nos péchés, l'a été pour la rémission des péchés de plusieurs, et qu'il est le sang de la nouvelle alliance conclue avec ce peuple, mais conclue par Dieu seul et sur le fondement de l'œuvre de Christ. Seulement, et comme toujours, le Saint-Esprit prend ses passages de promesses, d'espérances, de joie, de gloire, quant à l'accomplissement des promesses terrestres, pour tourner nos regards vers celui par qui ces choses seront établies, c'est-à-dire Christ venant en gloire. Et quand il viendra en gloire, ce sont les derniers actes de sa venue, le premier étant l'enlèvement des siens, il aura précisément les siens avec lui. Il viendra virer dans les siens, glorifier dans ceux qui auront cru, et il établira alors son royaume en puissance. Nous verrons ces choses, nous les verrons avec lui. Il n'est peut-être pas mauvais de lire dans le chapitre 25 d'Ésaïe, dans quel ensemble, dans quel contexte prend place ce qui est rappelé ici, la mort a été engloutie en victoire. Dans une de nos précédentes réunions, il a été rappelé que la mort a été vaincue, a été annulée à la croix de Christ. Là, la victoire a été remportée. D'où la résurrection de Christ, d'où ensuite la résurrection de ceux qui sont de lui à sa venue. Et pour cela, à la venue de Christ, première phase, premier acte de cette venue, l'enlèvement des saints, la mort sera bien effectivement engloutie en victoire. La foi réalise cela à l'avance, mais ce sera une chose effective, sera engloutie en victoire. Ensuite, elle sera bien engloutie en victoire pour la bénédiction terrestre, pour la délivrance de ce résidu fidèle et pour l'établissement du royaume. Mais il aura fallu, préalablement le jugement des ennemis. La victoire remportée sur les ennemis, et puis alors une résurrection, on peut dire, nationale d'un peuple qui a été plongé dans la mort pendant si longtemps. Résurrection nationale auquel fait allusion le passage bien connu de Daniel 12. Ceux qui sont qui dorment dans la terre se réveilleront. Alors ici, c'est la même chose dans cet Ésaïe 25, la mort engloutie en victoire. Ajoutons que pour les croyants de cette époque, des temps apocalyptiques qui seront véritablement des croyants, non pas ceux qui se soumettront seulement au roi parce que le jugement les aura visités, et qu'ils se soumettront par crainte ou en dissimulant. Mais ceux qui sont véritablement des croyants, pensons bien, nous sommes bien assurés, qu'ils auront part à par-delà le règne, quand le royaume aura été remis à Dieu le Père, ils auront part aux bénédictions des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, de l'éternité de bonheur, et que par conséquent, ils seront affranchis de la mort. Et de quelle manière, ça ne nous est pas dit, nous pouvons penser à une transmutation, eux aussi. Mais de toute manière, pour eux aussi, la mort, véritablement, aura été engloutie en victoire. Une petite parenthèse pour dire que selon que nos frères nous l'ont enseigné, nos frères si doués par le Seigneur, nous l'ont enseigné, il n'y a plus de mort dans le Seigneur après les martyrs de la grande tribulation. Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur dorénavant. C'est fini. Il n'y a plus de mort dans le Seigneur. Et dans le millénium, il n'y en aura pas, évidemment. La mort, il y aura encore la mort. Le pécheur âgé de 100 ans mourra, n'est-ce pas? La mort n'est pas encore abolie. Nous l'avons dit, elle sera abolie après le règne. Et juste avant que le royaume soit remis à Dieu le Père. Mais le triomphe sur la mort engloutie en victoire, pourrait être ainsi célébrée à l'entrée, n'est-ce pas, à l'aurore du règne, lorsque Christ se présentera en puissance avec les siens, tirant vengeance à ses ennemis, purifiant la terre par le jugement et établissant son royaume de justice. Alors, chapitre 25 d'Ésaïe, chapitre 25 d'Ésaïe, verset 6. L'Éternel des armées fera en cette montagne, c'est la montagne de Sion, à tous les peuples un festin de choses grasses, un festin de vin vieux, de choses grasses moelleuses, de vin vieux bien épuré. Et il détruira en cette montagne la face du voile qui couvre tous les peuples. C'est magnifique la figure qui est employée là, n'est-ce pas, pour dire que la terre, la création même, jouira de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Le voile sera enlevé, et la couverture qui est étendue sur toutes les nations, les empêchant de jouir du resplendissement de la gloire de Dieu, comme on le trouve ailleurs. Alors, il engloutira la mort en victoire, et le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de dessus tout visage, et il ôtera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre, car l'Éternel a parlé. Et il sera dit en ce jour-là, « Voici, c'est ici notre Dieu, nous l'avons attendu, et il nous sauvera. C'est ici l'Éternel, nous l'avons attendu, et gaillons-nous et réjouissons-nous dans sa délivrance. » Et en ce jour-là sera chanté ce cantique dans le pays de Juda, « Nous avons une ville forte. Il a mis le salut pour muraille et pour rempart, etc. » Ce sont les cantiques de réjouissance, de reconnaissance. Il est bon pour nous de penser à ces choses. Quand nous pensons à l'avenir de ce monde, voilà ce que Dieu a en vue. Le jugement, c'est son œuvre étrange, son travail inaccoutumé. Il n'en est pas moins terrible, ce travail. Elle n'est pas moins terrible, cette œuvre de jugement envers ceux qui n'auront pas voulu de la grâce, qui n'auront pas voulu de ses promesses, qui n'auront pas voulu de cette espérance. Et ce sera particulièrement le cas de ceux qui, dans ce jour de la grâce, c'est-à-dire avant que n'ait lieu le premier acte de la venue du Seigneur, c'est-à-dire l'enlèvement des saints, la résurrection, le changement qui nous est présenté ici, ceux qui n'auront pas voulu recevoir l'amour de la vérité pour être sauvés, n'ont pas voulu recevoir Jésus comme sauveur, il sera trop tard. Enfants de chrétiens qui auraient entendu tant de fois ces choses, et qui auraient prêté une oreille distraite, peut-être moqueuse. Savez-vous que en un clin d'œil, ce peut être la terrible réalité pour vous, il ne sera plus possible pour vous de revenir, de vous repentir, de croire. L'énergie d'erreur pour que il croie au mensonge sera envoyée. Puisse Dieu vous rendre attentif à ses appels. Et vous pénétrez de ceci, c'est que autant il est heureux pour les croyants, je redis ce qui vient d'être présenté, mais combien c'est important. Autant il est heureux pour le croyant de parler de ces choses, de s'affermir par la foi, mais par l'Esprit de Dieu et dans ses saintes vérités. Nous aussi, effroyable cela doit être comme pensée pour ceux qui n'ont pas d'espérance. Parce que alors, vous restez assujettis à la mort. Elle n'a pas été annulée pour vous dans ces conditions. Elle n'est pas engloutie en victoire pour vous. Elle ne sera pas abolie pour vous, plutôt. Vous ressusciterez aussi de cette résurrection de jugement, et ce sera la terrible, l'épouvantable, l'éternelle seconde mort. Pour nous, ces terreurs-là sont passées. Il est remarquable, et je crois d'un grand prix, d'observer comment, en ayant appelé à l'écriture de l'Ancien Testament, aux prophètes, au verset 50, à la fin du verset 54, pour dire « la mort a été engloutie en victoire », l'apôtre inspiré fait appel à un autre prophète, c'est-à-dire le prophète Osée, pour dire « où est, ô mort, ton aiguillon, où est, ô mort, ta victoire ?» Cri de triomphe du croyant, du racheté, de celui qui est de Christ. L'aiguillon de la mort. L'aiguillon de la mort qui est le péché. L'aiguillon, l'apôtre commente, n'est-ce pas, l'aiguillon de la mort, mais c'est le péché. Vous avez encore votre péché avec vous, le péché. Le croyant peut dire, mon sauveur l'a expié, mes péchés ont été portés. Et le péché a encore toute sa puissance sur vous. Et quelle est la puissance du péché? Oh, la puissance du péché, vous direz peut-être, mais c'est Satan, sont les puissances sataniques. La puissance du péché, c'est la loi. Dieu a donné une loi. Je crois que c'est un sujet qui nous a été présenté à plusieurs reprises dans les réunions du soir la semaine dernière. Il a donné une loi à la lumière de laquelle le péché apparaît dans toute sa culpabilité et dans toute sa puissance. Or, la loi de Dieu, que tant d'âmes, hélas, ont enseigné à essayer d'observer pour acquérir des mérites devant Dieu et pour pouvoir être justifié, la loi qui met en évidence le péché, n'a aucune puissance sur le péché. Elle n'a aucune puissance sur le péché. Et elle n'en a pas davantage pour le croyant que pour l'inconverti. Ce n'est pas la loi de Dieu qui nous donnera la moindre puissance sur le péché. Et l'apôtre Paul est formel, s'adressant alors à des croyants, le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. C'est la grâce qui a la puissance sur le péché. La loi, elle, est la puissance du péché. Voulez-vous échapper à cette puissance du péché, et d'abord à la culpabilité du péché, il y a un seul moyen, et c'est de recevoir la grâce de Dieu. Et avec quelle reconnaissance, avec quelles actions de grâce, grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas l'écho de ce que nous trouvons dans la fin du chapitre 7 des Romains, quand l'âme réveillée, croyante, mais qui essaye encore d'accomplir la loi, qui n'a pas encore compris qu'elle est incapable par elle-même de l'accomplir, a dû s'écrier « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ah, nous retrouvons ce corps de mort, parce que on assujettit au péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Alors, je rends grâce à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, en rapport avec l'engloutissement de la mort en victoire, grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, la conséquence de tout cela, la conclusion tirée de tout cela, c'est que si vous pouvez vous appuyer avec fermeté et de façon inébranlable sur les déclarations, sur les promesses, sur la révélation que je vous donne concernant votre avenir et concernant cette délivrance qui vous sera apportée à la venue du Seigneur Jésus-Christ, montrez-le dans votre vie. Soyez ferme, inébranlable. Cela vient de nous être rappelé tout à l'heure, comme ceux qui possèdent de telles certitudes, une telle assurance, qui, par la foi, devance résurrection, changement glorieux, connaissent déjà comme Seigneur et comme Sauveur celui qui va accomplir ce changement merveilleux. Alors soyez ferme, inébranlable, en vous tenant attaché à lui-même, en rejetant tout ce qui vous écarte de lui, en jugeant tout ce qui vous empêche de jouir de sa communion, de façon à le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection. Ah, il y aura la communion de ses souffrances, il y aura les travaux difficiles, il y aura les combats, il y aura la sentence de mort que l'on a en soi-même. Voilà ce que réalisait l'apôtre. Mais à travers tout, soutenu par les déclarations même de la parole et par tout ce qu'elle nous révèle concernant la puissance de résurrection de notre précieux Sauveur, sachant abonder toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Conclusion bien digne de développement et aussi grand, aussi encourageant, réconfortant, aussi solennel en même temps.
Mon corps sur la loi. Il ne faut pas croire que la loi soit annulée. La loi est remontée au trône de Dieu, revêtue de toute sa gloire, la gloire de son autorité. Et cette gloire de la loi, elle s'est manifestée dans le fait que Christ est mort. Pourquoi la loi est-elle la force du péché ? Parce que la loi dit, par exemple, tu ne convoiteras pas. Immédiatement, nous sommes tous saisis. Est-ce que Dieu a retiré sa loi et l'a corrigée? Non. Elle est maintenue. Entièrement. Dieu ne se corrige jamais. Et le Seigneur s'est placé sous la malédiction de la loi. Il a souffert en rapport avec tout ce qu'exigeait la loi. Et il a été parfait dans l'accomplissement de la loi. Et encore une fois, comme quelqu'un l'a dit, il est monté au ciel, la loi, il est monté au ciel et la loi a pris place, pour ainsi dire, dans le trône de Dieu, revêtue du fait qu'elle a été honorée par la mort de Christ. Seulement, pour lui, c'était toujours dans l'obéissance. Mais n'empêche que Dieu a été honoré dans la loi même qu'il a donnée. Et il ne pouvait pas ne pas l'être. Et s'il ne l'avait pas été, nous ne pourrions pas être sauvés. Là où nous avons à ne pas nous égarer, mais ce n'est pas le danger de nos jours, en tout cas parmi nous, ce serait de nous mettre sous le régime de la loi. Nous sommes sous le régime de la grâce parce que la loi a été honorée par Christ. Et toutes les exigences de Dieu qui a dit « tu ne convoiteras pas », eh bien tout cela a été réalisé dans un homme qui a honoré Dieu en montrant que Dieu ne s'était pas trompé en parlant ainsi, et que Christ l'a honoré dans tout ce que Dieu avait dit ainsi, eh bien, Dieu peut ouvrir les portes de la bénédiction à ceux qui étaient sous le régime de la loi, au fond tous les hommes, spécialement les juifs, mais au fond tous les hommes. Si sur le terrain de la responsabilité, nous aurions dû être parfaits dans l'accomplissement de la loi, c'est évident que nous étions condamnés d'avance. Dieu nous ouvre son ciel parce que sa loi a été honorée et maintenant nous ne sommes plus sous le régime de la loi. Nous sommes sous le régime de la grâce. Cela ne veut pas dire que le mal soit moins fortement qualifié sous la grâce que sous la loi. Un mensonge est bien plus laid dans un chrétien que chez quelqu'un qui ne connaît que le régime de la loi. Un mensonge, une fraude, sont bien plus abominables. Et le jugement des saints dans l'assemblée ou de chacun pour soi-même va bien au-delà de cela. Nous jugeons les motifs qui nous font agir. Non, tous les motifs. Seulement, nous ne sommes pas sous le régime de là-bas, dans nos rapports avec Dieu. Nous sommes sous le régime de la grâce, la gloire de Dieu, ses droits, sa justice ayant été pleinement satisfaits. Dieu nous reçoit sur ce. Voilà la grâce. Mais la grâce ne se sépare jamais de la vérité, jamais. L'amour et la lumière, c'est Dieu est son être est là, et il ne se sépare jamais. Il faut le dire parce que quelquefois, on s'autorise volontiers du fait qu'on n'est pas sous la loi pour conclure qu'on est sous le régime de toutes les libertés. Ce n'est pas vrai du tout. C'est le chrétien qui peut réaliser la loi, il est appelé à le faire. Nous ne sommes pas sous la loi juridiquement, mais moralement, nous pouvons y être et nous devons y être et faire la loi, accomplir la loi. Un chrétien peut très bien, s'il était fidèle, nous sommes sûrs que Paul était cela, il réalisait la loi, et il aimait son prochain comme lui-même. Il a consacré sa vie. Nous devrions laisser nos vies pour nos frères, c'est même plus que la loi.
La loi du Christ,
oui.
Comme on a dans les Galates.
Oui, la morale chrétienne est infiniment supérieure. Est infiniment supérieure à la morale juive, parce que c'est la manifestation de la vie de Christ dans les saints. Voilà ce qu'est un homme. Christ, un chrétien, c'est quelqu'un en qui Christ est. Et par conséquent, voilà le privilège, la responsabilité, Christ doit se montrer.
La vie de Christ dans nos corps d'infirmité.
Tout le christianisme est là. Et en passant, je voulais dire une chose à laquelle je pensais tout à l'heure. C'est que les dogmes ne sont pas la vérité, ne sont pas Dieu. Non. Les vérités ne sont pas Dieu. Par l'esprit, elles nous conduisent à le trouver ou à le retrouver. Comme nous nous sommes écartés. Mais les vérités ne sont pas Dieu. La vérité, c'est Christ. Nous avons à veiller à ne pas nous contenter de parler de dogmes. un dogme détaché de la vérité vivante est comme, on pourrait dire, comme un sarment sec, mort, séparé de son seul. Les doctrines, les vérités ont de la valeur dans la mesure où elles se lient à la source vivante de la vérité scripturaire, par l'Esprit Saint. Autrement, en elles-mêmes, jamais des vérités, des dogmes ne consolent un chrétien s'il n'y a que cela. Si le Saint-Esprit les rend actifs, n'est pas évidemment, mais en eux-mêmes, on peut avoir beaucoup de connaissances dans l'esprit, mais cela ne veut pas dire que la réalisation de la vérité vivante soit là. C'est Christ qu'il nous faut, et c'est à Christ que nous conduit l'Écriture de par l'opération du Saint-Esprit et toutes les vérités de l'Écriture. La vérité de la résurrection, si nous nous contentons de savoir que le Seigneur va venir et que nous partirons, eh bien, cela n'est pas nécessairement une chose efficace. Mais si nous aimons le Seigneur et que nous l'attendons, et alors la pensée de sa venue est quelque chose qui est bienfaisant pour pour nos âmes et qui a un effet dans nos vies. Il en est ainsi de toutes les vérités du Nouveau Testament.
Quelque chose qu'un serviteur, un vénéré serviteur de Dieu a écrit au sujet de la loi. Je garde la loi de fait en vertu, cela vient d'être dit, de ce que je ne suis pas sous elle de droit, parce que la vie et l'esprit de Christ me font aimer mon prochain et que celui qui fait cela accomplit la loi. La chose est produite et non pas imposé.
Juste exigence de la loi, il en est question dans le chapitre 8 des Romains, dans le passage bien connu, et où il nous est dit que Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché et pour le péché, a condamné le péché dans la chair, afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous qui ne marchons pas selon la chair mais selon l'esprit. Une juste exigence de la loi qui est juste, sainte et bonne, mais une juste exigence qui ne pourra jamais être exigée de la chair. C'est impossible. Ce n'est pas la loi qui est mauvaise, c'est la chair qui est incapable de l'accomplir. Alors, la juste exigence de la loi, elle est accomplie en qui ? En Christ, en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Or, l'esprit, c'est l'esprit de Christ. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Oh, combien ces choses sont importantes, on les a souvent répétées, mais comme il est nécessaire que chacun de nous s'en pénètre pour connaître ce qui est. Les deux termes paraissent contradictoires. Ce qui est la loi de la liberté, ce qui veut dire la loi de Christ.
Je rappellerai à propos de ce qui vient de nous être renouvelé, ce que nous trouvons en Ésaïe 42, où c'est au verset 20e, 20 et 21 d'Ésaïe 42. L'élu dont il est question ici, c'est le Christ qui devait venir. Au verset 21, nous lisons « L'Éternel a pris plaisir en lui à cause de sa justice. Il a rendu la loi grande et honorable, non seulement il a accompli la loi. Il le disait lui-même, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Mais nous avons cette expression. L'Éternel a pris plaisir en lui à cause de sa justice. Il a rendu la loi grande et honorable. Et je m'efforcerai de rappeler ce à quoi notre frère a fait allusion. C'est une de ces expressions qui était dictée, n'en doutons pas, à l'esprit pieux du cher monsieur Bellet, qui pouvait dire « La loi est remontée au trône de Dieu d'où elle était descendue, honorée de la sanction que lui a donnée la mort du juste, quand il a été fait péché pour nous. » Et ainsi, l'adorable personne dont l'Esprit de Dieu a voulu nous entretenir dans ces heureuses après-midi, la personne du Seigneur Jésus, est là, rendue vivante pour nos âmes dans ce qui a été son œuvre éternelle, ayant glorifié Dieu dans sa vie et l'ayant glorifié dans sa mort. J'aimerais, sans peut-être y insister trop, mais pourtant, il y a là un sujet de méditation qui doit nous être précieux. De la bouche d'un cher serviteur de Dieu, de qui nous avons tous beaucoup reçu, et dont la mémoire est encore en bénédiction sur vos montagnes. J'ai retenu ceci à propos de ce mystère, à propos de cette dernière trompette. Je ne dis pas que cela ne nécessite pas réflexion, en tout cas, cela incline à la méditation. Lorsque le Saint-Esprit est descendu du ciel, ça n'a pas été une trompette, mais un son qui a rempli toute la maison. Et il appelait cela le premier son de l'Esprit de Dieu, le premier appel à une attention et à une foi éclairée. Pour lui, ça a été comme le son de la première trompette, la voix de l'Esprit de Dieu, quand la formation de l'Église a commencé ici-bas. C'est acte 2. Il parlait encore, et c'était à propos de ce cri de minuit, de ce son que l'Esprit de Dieu a fait entendre, voici bientôt un siècle et demi. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Je sais bien, et lui il savait bien, que Matthieu 25 parle du royaume, mais on nous a souvent dit, et nous avons besoin de nous y arrêter, à l'église endormie, se réveillant à peine d'un sommeil des siècles, et qui, en particulier, avait perdu absolument la notion du retour de son chef et de son époux. Telle était l'Église du Seigneur au commencement du siècle dernier. Voici un cri, au milieu de la nuit, dans les ténèbres morales et peut-être même spirituelles, qui caractérisait, en tout cas dans ce sommeil, qui caractérisait l'Église. L'Esprit de Dieu est là, au milieu de la nuit, et fait entendre, comme le son d'une trompette, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Et alors, il allait à la dernière trompette. Et il y a une édification pour nous. On a pensé que l'Esprit qui est venu pour le rassemblement d'Église, qui nous réveille, qui a réveillé les chrétiens du siècle passé, et qui veut nous tenir réveillés dans la nuit de son attente. L'Esprit qui dit, voici l'Époux, sortez à sa rencontre, nous entendrons le son béni de la voix de l'Esprit quand il viendra. Il disait, dernière trompette, il est là, c'est le son de victoire. Alors le mystère aura sa réalisation. Nous ne nous endormirons pas tous. Peut-être parmi nous tous qui sommes là, jouissant une fois de plus de toutes les joies profondes que la connaissance et la foi dans le mystère apportent à nos cœurs, peut-être nous ne serons de ceux qui seront changés. De toute manière, la mort est annulée. Il a fait luire la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Il a annulé la mort. Précieuse pensée, l'Esprit de Dieu qui est venu, envoyé par le Seigneur lui-même, reçu de la part du Père, l'Esprit qui est venu et dont le son puissant a été visible dans des effets merveilleux. C'est le commencement du livre des Actes. C'est la naissance de l'Église, si on ose dire. C'est le commencement de la réalisation sur la terre du mystère caché dès les siècles en Dieu. L'Esprit que Dieu n'a pas retiré, grâce lui s'est rendu, et qui est encore là pour la vie de l'Église, pour rattacher au Seigneur maintenant glorifié et qui est le Christ Jésus, notre espérance, l'Esprit est là qui nous dit « Voici l'Époux ». Au fond, il se présente lui-même et nous jouissons toujours dans la fraîcheur d'une promesse renouvelée quand il vient à nous et nous dit « Moi, Jésus, je suis l'étoile brillante du matin. » Mais l'Esprit, bientôt, nous dirions tous sans respect, son œuvre de grâce et de rassemblement achevé. L'Esprit qui dit maintenant, comme l'épouse et l'épouse, avec l'Esprit et par l'Esprit, vient dans ce jour-là. Nous aurons ce dernier son qui sera un cri de victoire et de triomphe. Encourageons-nous, mes chers amis chrétiens, car il y a eu les accents solennels des complaintes, et il était bon qu'on les entendît. Mais que le doux son de la flûte, la voix douce de l'Esprit Saint, nous ouvrions nos cœurs, chers amis chrétiens, pour le laisser agir et nous former selon sa puissance pour le moment où le mystère aura sa pleine réalisation. Et je propose que nous chantions le seul cantique de notre recueil qui a l'Esprit Saint comme thème. C'est dans le nouveau recueil, en silence, mon âme écoute la douce voix de son esprit. C'est 204, hein, bien ça.